VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, en RDC, la CENI a finalisé la liste électorale et a enlevé des millions de doublons. Nouveau renvoi du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma affirme être la victime d'accusations politiques à son procès pour corruption. Et puis ce nouvel échec des discussions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur le partage des eaux du Nil.
Le barrage de la Grande Renaissance est construit pour une bonne partie et donc à terme ce barrage va fonctionner avec ou sans consentement égyptien.
Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, en République démocratique du Congo, plus de 5 millions de personnes ont été radiées du fichier électoral, dont un peu plus de 900 000 mineurs. Après plus de 2 mois de nettoyage du fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante a présenté cet après-midi à Kinshasa les statistiques. Une étape importante en prévision des élections du 23 décembre prochain. Plus de détails avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Sur les 46 542 289 enrôlés fin janvier dernier, la Commission électorale nationale indépendante ne dispose plus sur son fichier que de 40 287 387 électeurs. 5 381 763 doublons ont donc été radiés de ce fichier électoral. Parmi eux, 902 290 mineurs. Les provinces du Sankuru, de la Tchouapa et de l'Omami détiennent le record de ces irrégularités. Pour ce qui est des statistiques par province, avec 4,4 millions d'inscrits, la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, pointe en tête des provinces avec le plus grand nombre d'électeurs. Suivent le Nord Kivu avec ses 3,8 millions d'électeurs, le Sud Kivu qui compte 2,5 millions d'électeurs, le Haut Katanga avec ses 2,4 millions d'électeurs et le Kwilu qui en comptabilise 2,3 millions. La centrale électorale a également dévoilé les statistiques de chaque territoire de la RDC. Étape déterminante pour la répartition des sièges dont la loi doit être débattue au Parlement pendant la session parlementaire en cours. Le calendrier électoral de la CENI continue à tenir la route, a par ailleurs rassuré Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, devant de nombreux invités, notamment les représentants des partis politiques. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, le président Joseph Kabila a reçu en audience Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, et ce en plein désaccord entre Kinshasa et l'ONU sur la crise et l'aide humanitaire dans le pays. Kinshasa refuse de participer à une conférence des donateurs à Genève le 13 avril et estime que l'ONU et les ONG exagèrent le nombre de déplacés internes et la crise humanitaire en RDC. Au Cameroun, Akbor Bala Nkongo, un défenseur des droits de l'homme, accuse l'armée d'exactions dans les régions anglophones. Selon le directeur de l'ONG Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique, l'armée camerounaise a attaqué et incendié plusieurs maisons à Mungo-Vendeur, un petit village près de Ngouti. L'armée camerounaise a rejeté ces accusations et évoque des manœuvres d'intoxication, selon leurs termes. Au Nigeria, 10 corps ont été retrouvés en brousse. Des hommes armés avaient attaqué plusieurs villages dans le district de Gwer West dans la nuit de mercredi à jeudi, selon la police de l'état de Benue. La région est le théâtre d'affrontements réguliers entre agriculteurs et éleveurs pour l'accès aux ressources. Au Burkina Faso, le procès des auteurs présumés du putsch de septembre 2015 n'a finalement pas eu lieu ce matin. Presque la totalité des avocats de la défense ont suivi leurs collègues qui avaient démissionné il y a quelques jours. 12 accusés se sont ainsi retrouvés sans conseil. Ces démissions en cascade ont ainsi modifié l'agenda du tribunal militaire. à Ouagadougou, la correspondance d'Issanatpon.
À l'ouverture du procès qui devait aborder les questions de fond avec les premiers interrogatoires des 84 accusés, 12 d'entre eux n'étaient pas assistés. La majorité des avocats de la défense ont suivi leurs collègues de la semaine écoulée en se déportant eux aussi, c'est-à-dire qu'ils n'assurent plus la défense de leurs clients. Les griefs lus dans une lettre adressée au tribunal ce matin sont justifiés, estime Maître Christian Bilba.
La première chose, nous avons réprisé les deux magistrats professionnels sur des bases que nous estimons suffisamment solides. La deuxième raison, c'est que les juges ont été nommés par des parties.
Le refus des deux mois demandés pour produire leurs témoins font partie de nombreux griefs que Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile, considère comme du pur dilatoire. Il n'est pas surpris par ces attitudes de la défense, laisse-t-il savoir.
Ça rentre dans la ligne droite de la stratégie que la défense a adoptée depuis le début de ce procès. La logique était de faire en sorte qu'il y ait une paralysie du procès. Dans tous les cas, nous sommes persuadés que ce procès aura lieu et on saura qui a fait quoi.
Rendez-vous est pris pour le 9 mai avec certainement l'entrée en scène uniquement d'avocats commis d'office.
Au Niger, l'université de Niamey est paralysée par une grève des étudiants depuis 3 semaines. Les étudiants exigent notamment l'annulation de l'exclusion de 5 responsables syndicaux. Hier, les forces de l'ordre ont dispersé un sit-in sur le campus à coups de grenades lacrymogènes. En Mauritanie, le chef de l'opposition radicale a annoncé l'intention des opposants à participer sous condition aux prochaines élections législatives et municipales. Mohamed Ould Mouloud a également demandé que soient poursuivis en justice les auteurs d'appels à une modification de la Constitution, une modification qui pourrait permettre au président Mohamed Ould Abdelaziz de briguer un 3e mandat en 2019. 2 véhicules piégés ont explosé aujourd'hui à Mogadiscio, en Somalie, dont une sur la route menant à l'aéroport. Les auteurs de ces attaques, 3 militants Chebab, ont été tués, ainsi qu'un militaire qui est mort suite à des échanges de coups de feu avec les djihadistes. En Afrique du Sud, le procès de l'ancien président Jacob Zuma, accusé de corruption dans une affaire de vente d'armes, a démarré aujourd'hui. Il a aussitôt été renvoyé au 8 juin. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
À la demande de l'accusation et de la défense, Temba Sichi, magistrat en charge du dossier, a renvoyé le procès au 8 juin. Il a ajouté que c'est une date provisoire. « Je suis innocent jusqu'à ce que je sois jugé coupable, mais certaines personnes veulent me traiter comme si j'étais coupable », a lancé Jacob Zuma à la foule, qu'il a acclamé par des chants et le slogan, je cite, « Ne touchez pas à Zuma ». À l'époque ministre provincial puis vice-président, M. Zuma est soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part du groupe français Thales lors d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros en 1999. L'entreprise d'électronique et de défense est aussi poursuivie. Jacob Zuma a toujours rejeté ces accusations qu'il dénonce comme un complot politique. Mis en cause dès 2003, par 2 fois le parquet a engagé des poursuites, puis les a abandonnées. La dernière annulation, quelques jours avant son élection à la présidence en 2009, semblait avoir enterré l'affaire. Mais en mars dernier, Jacob Zuma a été renvoyé devant le tribunal pour fraude, corruption et blanchiment.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, tensions commerciales entre Washington et Pékin. Le président américain Donald Trump a doublé les enchères et menace de viser les importations chinoises à hauteur de 100 milliards de dollars. La Chine a assuré ne pas craindre de payer le prix d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Les menaces sont devenues presque quotidiennes de part et d'autre du Pacifique. Le président Donald Trump veut se servir de l'article 301 sur la propriété intellectuelle pour porter à 100 milliards de dollars les tarifs douaniers. Il a ordonné à son département du commerce d'examiner la possibilité et d'identifier les produits chinois à taxer. Pékin se dit prêt à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix, et a répété que la Chine n'a pas peur d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Même si Washington a clairement décidé de faire monter la pression d'un cran en répondant du tic-tac à Pékin, il ne s'agit pour l'instant que de menaces. Le représentant américain au commerce a laissé entendre que les mesures de rétorsion n'entreraient en vigueur qu'à l'issue d'un processus de consultation publique. La Chine a déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre les États-Unis et tente aussi de mobiliser l'Union européenne et la Russie pour combattre ensemble le protectionnisme américain. Le président Trump a vivement dénoncé le fonctionnement de l'OMC, jugeant qu'elle était injuste envers les États-Unis.
D'ailleurs, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a estimé qu'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine était possible, mais souligne la volonté de Washington de négocier. En Grande-Bretagne, l'état de santé de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille s'améliore rapidement un mois après leur empoisonnement. Londres accuse Moscou et l'affaire a provoqué une grave crise diplomatique entre la Russie et les pays occidentaux. Et puis le régime syrien a mené des raids aujourd'hui contre l'ultime poche rebelle dans la route orientale aux portes de Damas. Ces nouvelles frappes interviennent après l'échec des négociations sur un retrait des insurgés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'accès préférentiel au marché américain a permis l'accroissement des échanges commerciaux entre le continent africain et les États-Unis. En 2001, les exportations à Goa vers les États-Unis représentaient plus de 8 milliards de dollars. Et en 2008, elles ont atteint un pic historique à plus de 66 milliards de dollars. La GOA a été prorogée pour 10 ans supplémentaires jusqu'au 30 septembre 2025. En 2016, la GOA bénéficiait à 38 pays sur les 49 d'Afrique subsaharienne, la Gambie, le Swaziland, le Soudan du Sud, l'Érythrée, la RDC, la Centrafrique, le Zimbabwe, la Somalie, la Guinée équatoriale et le Burundi sont exclus de ces avantages. Le secteur agricole peut jouer un rôle déterminant dans le renforcement de la croissance en Afrique du Nord. D'après la BAD, il faut une plus grande sécurité alimentaire et la diminution de la pauvreté rurale. Dans un premier temps, la BAD suggère d'augmenter les réserves alimentaires et d'utiliser les marchés financiers pour réduire les risques. Puis, soutenir les petits exploitants et les familles d'agriculteurs pour accroître la production alimentaire et accéder plus facilement aux marchés des intrants et des extrants.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Match de barrage aller de la Coupe CAF.
Eh bien, le CF Mounana a été tenu en échec ce vendredi à domicile face à El Masri d'Égypte. À suivre toujours ce vendredi le Rayon Sport du Rwanda qui accueille Costa do Sol du Mozambique et encore le Bidwest de Wits qui joue en Afrique du Sud à domicile contre Enyimba du Nigeria. Demain, d'autres rencontres à suivre. Le Raja Casablanca en déplacement en Zambie chez le Zanaco. L'AS Vita Club qui affronte le voisin congolais du CS La Mancha. Saint-Georges d'Éthiopie contre le Kara de Brazzaville. L'Udesongo du Mozambique contre Hilal Obiet du Soudan. Et puis l'USM Alger en déplacement au Nigeria chez le Plateau United. Les Young Africans de Tanzanie contre le Waita Dicha d'Éthiopie. Et puis le RS Barkhane face à Génération Foot au Sénégal. Enfin, le WAC de Williamsville, le club ivoirien contre Niéfang de Guinée équatoriale. Dimanche, enfin, les dernières rencontres. Al Hilal du Soudan contre Akwa United du Nigeria. Gor Mahia du Kenya face à Supersport United, le club sud-africain. Le Fossa Junior de Madagascar en déplacement chez Adwana Stars du Ghana. La SEC Mimosa accueille à Abidjan le CR Belouizdad. Enfin, MFM du Nigeria contre le Djoliba de Bamako.
Démission à la tête de la Confédération Océanienne de Football.
David Chung, le président, a annoncé ce vendredi à la surprise générale qu'il démissionnait pour des raisons personnelles à 10 mois de la fin de son mandat. L'homme d'affaires de 55 ans, né en Malaisie mais président de la Fédération de Papouasie-Nouvelle-Guinée, son pays de résidence, avait remplacé au pied levé en 2010 le Tahitien Reynald Temari, impliqué dans un scandale d'achat de vote. Il avait ensuite été confirmé en 2011, puis réélu en 2015 pour un mandat de 4 ans à la présidence de la plus pauvre des confédérations de la FIFA, qui compte 11 pays membres.
Et pour finir, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
À quelques jours du coup d'envoi des playoffs, Golden State surclassé par Indiana, une défaite inquiétante, 106-126. L'optimisme est de mise à Cleveland en revanche grâce à l'inévitable LeBron James qui a foudroyé Washington, victoire 119-115. De son côté, Houston, leader de la conférence Ouest et favori pour le titre, a tremblé face à Portland avant de s'imposer 96-94. Enfin, Denver n'abdique toujours pas. Les Nuggets ont battu Minnesota 100-87.
Merci Nicolas.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Congo-Brazzaville, une vingtaine de réfugiés centrafricains sont rentrés chez eux mercredi grâce à la pluie du HCR à Brazzaville. Ce retour fait suite à d'autres départs qui ont commencé dans le nord du pays, notamment dans la Likouala. Reportage de notre correspondante Gwelan Goussou.
Dernières accolades et quelques selfies dans la salle d'enregistrement de l'aéroport international Mayamaya. Une vingtaine de réfugiés centrafricains manifestent leur joie en rentrant au bercail.
On dit toujours être bien, c'est spécial. Donc c'est parfois ça que je suis obligé de rentrer. Je suis vraiment dans une grande joie parce qu'aujourd'hui je vais retrouver enfin mes familles, c'est ça.
La même joie est partagée par Mireille Sondé, une autre réfugiée qui dit retrouver enfin un pays natal en paix.
Ici en Congo c'est bien. Mais le problème c'est qu'on n'a pas habitué ici.
Nous n'avons pas de famille.
Famille ici, donc on voulait même aller chez nous pour vivre dans notre famille parce que notre pays a besoin de nous. C'est ça, on ne voulait pas.
Ils ont au total été 26 réfugiés à prendre le vol Brazzaville-Bangui mercredi matin. Certains sont même venus de Pointe-Noire. Selon le recensement du 31 janvier 2018, le Congo a accueilli 32 508 réfugiés centrafricains. Mais seulement 800 demandent à rentrer chez eux. Les premiers départs d'une centaine de personnes ont déjà eu lieu par le nord du pays, à Bétou, dans la Likouala. Le responsable de communication du bureau du HCR à Brazzaville, Mohamed Assori, indique que le travail de l'agence onusienne consiste à s'assurer que tous les répatriements volontaires se fassent dans la sécurité.
Nous sommes en train de faciliter ce retour-là. L'air n'est pas à la promotion des rapatriements pour tout le monde, mais tous ceux qui désirent rentrer en âme et conscience, sans aucune pression, bien sûr, ni celle du HCR, ni des autorités impliquées, nous, on s'assure juste à ce que ça se passe dans les conditions les plus humaines, les plus dignes possibles.
Une enveloppe dont le montant n'a pas été révélé a été remise aux réfugiés pour recommencer une nouvelle vie à Bangui. Prochain départ à partir de Mayamaya, mercredi prochain. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
La justice tchadienne a ordonné la libération du cybermilitant Tadjadine Mahamat Babouri. Il a été détenu pendant 18 mois pour avoir diffusé sur Facebook plusieurs vidéos dénonçant la mauvaise gestion des fonds publics. Une détention arbitraire illégale est basée sur des accusations forgées de toutes pièces, estime Amnesty International. Morgane Guiriec a joint Balkissa Idesido, chercheuse à Amnesty International.
Il a été détenu en fait sans accès à sa famille ni à son avocat. Et pendant sa détention, il a été frappé, il a été torturé avec de l'électricité. Et il nous a communiqué que pendant 3 jours, on ne lui a donné ni de l'eau, ni de quoi manger. Les charges qui ont été portées contre lui sont énormément exagérées parce qu'il n'a fait que s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il n'a fait qu'exprimer une opinion, ce à quoi il est autorisé parce que c'est son droit. Il a le droit à la liberté d'expression. Rien que pour ces vidéos, il a été inculpé pour atteinte à l'ordre constitutionnel, à l'intégrité territoriale et à la sécurité nationale, de même que complicité d'intelligence avec un mouvement insurrectionnel. Aujourd'hui, après plus de 18 mois de détention, qu'on peut dire illégale, la justice a requalifié les charges, donc on l'a inculpé maintenant pour diffamation. Et ce n'est qu'hier qu'il a été libéré. Or, d'après la loi tchadienne, on ne peut pas punir la diffamation par la détention.
Alors, il comparaîtra une nouvelle fois devant le tribunal le 19 avril, mais vous estimez qu'il devrait rester libre, n'est-ce pas?
Les charges de diffamation sont vraiment sans aucun fondement, d'autant plus qu'au Tchad, on ne reconnaît pas qu'il est journaliste, parce que les charges de diffamation ne peuvent être portées qu'à un journaliste. D'après la loi tchadienne, on ne peut pas emprisonner pour diffamation. On peut demander à la personne de payer des amendes. Donc nous demandons aujourd'hui que toutes les charges retenues soient totalement abandonnées et que les allégations de torture soient investiguées et que les coupables soient présentés devant un tribunal civil et indépendant.
Sur ces allégations de torture, est-ce que les autorités concernées reconnaissent les faits?
Il se trouve aujourd'hui que durant toute la procédure, que les allégations de torture n'aient pas été mentionnées. Pourtant, il y a des certificats médicaux qui ont été délivrés par des médecins, les médecins qu'ils ont eu à lui administrer des soins pendant sa détention à la prison de Korotoro, également à Moussoro, qui démontrent qu'il a été torturé pendant sa détention.
D'après vous, le cas de Tajadine est représentatif du sort réservé aux défenseurs des droits de l'homme, aux militants de la société civile et aux journalistes au Tchad.
Les défenseurs des droits humains, les personnes qui s'expriment de manière libre et pacifique par rapport à la crise économique que le pays vit actuellement ou qu'ils ont eu à revendiquer les résultats des présidentielles ont été fortement menacés, intimidés, ils ont subi des pressions, ils ont été arrêtés, détenus.
C'était Balkissa Idé Sido d'Amnesty International.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les eaux du Nil sèment la discorde entre Addis Abeba et le Caire. Le barrage dit de la grande renaissance éthiopienne inquiète l'Égypte, qui craint une réduction du débit du Nil bleu qui traverse le Soudan et alimente l'Égypte. Depuis plusieurs mois, les discussions sont au point mort et la réunion des experts qui vient de se terminer à Khartoum n'a pas permis de sortir de l'impasse. Est-ce une surprise, ce nouvel échec ? Idriss Fall, adjoint à Tokyo, Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS.
Non, depuis le début, des rapports d'experts sont commissionnés. Les conclusions sont privilégiant à la fin un camp sur un autre. Les experts sont renvoyés à leurs études et il faut refaire un autre rapport. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui à Khartoum. On est dans une situation qui est à la fois une impasse en termes d'accord formel, avec quand même une différence, c'est que le barrage de la Grande Renaissance est construit pour une bonne partie. Et donc, à terme, ce barrage va fonctionner, avec ou sans un sentiment égyptien.
L'Égypte avait aussi, dans un accord antérieur, bénéficié le plus des eaux du Nil.
Oui, mais ils ont le point de vue des Éthiopiens n'est pas absurde. Ils soulignent d'abord que cet accord a été signé dans un moment historique particulier où l'Éthiopie ne pouvait guère faire valoir ses droits. Depuis, il y a eu une croissance démographique importante pour l'Éthiopie. L'Éthiopie a besoin d'électricité, l'Éthiopie a besoin de développement. Et évidemment, l'énergie électrique peut y contribuer. Le problème des Égyptiens, c'est que leur agriculture et leur monde urbain est complètement dépendant des eaux du Nil et qu'il n'y a aucune alternative qui a été trouvée. Disons, une des choses qui pourrait être négocié, c'est en combien de temps le bassin de ce nouveau barrage peut être rempli. On parle d'un an, deux ans, trois ans. Bon, évidemment, tout ça aura un impact. De fait, il y a beaucoup de questions qui sont posées, qui est au-delà du partage des eaux du Nil, sur l'impact écologique dans la région, à la fois sur le Soudan, l'Égypte, et puis peut-être même à l'intérieur de l'Éthiopie.
Et le Soudan dans tout ça?
Alors, le Soudan est dans une situation difficile, parce que d'un côté, il faudrait la solidarité arabe, mais de l'autre, le Soudan se rend compte que le régime de Sisi ne lui est pas le plus favorable. Sisi est hostile de façon assez fanatique à l'islam politique. Et puis il y a aussi des intérêts économiques. Si l'Éthiopie lance la production hydroélectrique avec ce barrage, le Soudan en sera l'un des principaux acheteurs. Et d'autre part, le Soudan a aussi l'idée de construire des barrages qui sont évidemment de taille totalement minime.
Est-ce qu'on peut envisager une guerre pour le partage des eaux du Nil ?
On murmure ici et là que l'Érythrée aimerait bien. L'Érythrée, il y a eu au mois de janvier une mini-crise où à Khartoum, il y avait des rumeurs disant que les Égyptiens avaient envoyé des troupes en Érythrée avec les Émiratis, qui ont une base militaire. Les Égyptiens n'étaient pas trop mécontents de tout ça. Alors Khartoum a dû demander des négociations et puis on s'est rendu compte que tout d'un coup, il n'y avait pas de contingent égyptien, il n'y avait pas de contingent émiratis et que tout ça, c'était un peu des rumeurs qui étaient venues en Irlande simplement pour provoquer une petite crise diplomatique.
Nous écoutions Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le gouvernement du Kenya a plafonné les taux d'intérêt des banques pour stimuler les prêts, mais la plupart des gens ont encore du mal à accéder au crédit. Les travailleurs à faible revenu se tournent plutôt vers des groupes d'épargne et de crédit informels connus sous le nom de chamas ou de coopératives. Un groupe de femmes d'un bidonville de Nairobi a commencé un chama il y a 7 ans et a pu ainsi créer des logements pour les membres qui vivent à la périphérie de la capitale. Écoutons le récit d'Arzuma Compaoré.
Rose Odinga est une veuve de 45 ans et mère de 2 enfants. Elle a créé en 2011 une société d'épargne informelle nommée Razak qui réunit des femmes dans le but de construire des maisons décentes pour leur famille.
Vous pouvez planter des légumes et du maïs à l'extérieur. Vous avez un peu d'espace pour cultiver ces choses, ce que vous n'aviez pas dans le bidonville Kibera. La sécurité ici est très bien, pas comme Kibera, parce que là-bas vous pouviez marcher dans les ruelles et être agressé, alors qu'ici la mentalité est très ouverte. On est en sécurité et c'est très agréable.
Située à 28 km à l'est du quartier central des affaires de Nairobi, sur un terrain de 6 hectares, la première phase du domaine de Razak comprend maintenant 136 logements pour les faibles revenus. Les femmes ont établi un partenariat avec le Syndicat national des coopératives d'habitation du Kenya, un organisme regroupant plus de 800 coopératives d'habitation. Francis Kamande, président du Syndicat national des coopératives d'habitation du Kenya.
Grâce à la coopérative, vous pouvez emprunter beaucoup plus facilement et à un coût beaucoup plus intéressant que lorsque vous êtes seul. Ainsi, la solution pour le Kenya, même pour le gouvernement kenyan, c'est d'adopter le modèle coopératif comme étant le meilleur. C'est ce modèle qui permet aux Kenyans des zones urbaines d'acheter une maison.
Bien que la nouvelle constitution du Kenya stipule que l'accès à un logement convenable est un droit, la plupart des maisons nouvellement construites sont destinées aux classes moyennes et supérieures, laissant les faibles revenus sans accès à un logement décent. Razak exige des membres d'économiser une somme forfaitaire d'environ 3 000 $ pour commencer la construction. Une fois que la maison lui est accordée, le membre peut emménager et rembourser le solde impayé de 10 000 $ par des paiements mensuels sur un équilibre de réduction pendant environ 7 ans. Les membres de Razak se réunissent 2 fois par mois pour recueillir leurs économies et discuter du projet de logement. Farida Yacoub Mohamed vit à Kibera et économise pour s'acheter une maison.
Nos problèmes incluent le manque d'eau propre, l'insécurité, la pollution de l'air, nos toilettes ne sont pas bonnes et c'est pourquoi nous travaillons dur pour épargner, pour que nous puissions avoir des maisons à l'avenir grâce à la coopérative.
Pour Nafisa Bourane, trésorière de Razak, la coopérative est une aubaine.
Ce projet n'aurait pas pu décoller si nous étions allés voir une banque, car les banques sont strictes sur les remboursements. Si c'est 20 000 shillings que vous devez, c'est cette somme, et pas moins. Ainsi, la coopérative travaille pour nous et octroie aussi des prêts qui équivalent jusqu'à 5 fois votre épargne. Si vous avez économisé 10 000 shillings, ils peuvent vous octroyer un prêt de 50 000 shillings.
Les banques ayant resserré en 2016 les conditions de crédit pour les prêts de logement aux personnes à faible revenu, sans antécédent de crédit, les Kenyans se tournent vers le crédit informel comme alternative de financement.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. À la console, Wojtek Journiak. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, www.voaafrique.com, sans oublier notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
I've been moving calm, don't start no trouble with me.
Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, this was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't.